Le Star Wars Universe Show, c'est tout de suite sur SWU.
You should all consider yourselves to be in my power.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Star Wars Universe Show. Dans cette émission, nous parlerons du jeu The Old Republic, sorti en décembre dernier. Et avec moi pour en parler, nous recevons aujourd'hui Craig Witch.
Salut.
Alors, dans un premier temps, on va essayer de présenter le jeu. Ensuite, on va parler des différents types de personnages qu'on peut avoir dans le jeu. Ensuite, on parlera des guildes et enfin de l'avenir du jeu. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un MMORPG ?
Alors, un MMORPG, comme son nom l'indique, c'est un jeu qui est massivement multijoueur, donc ça veut dire qu'il y a un très grand nombre de joueurs connectés en même temps que vous. Et RPG signifie que vous allez incarner un personnage. Donc en fait, c'est un jeu, un monde persistant dans lequel vous allez pouvoir vous connecter en même temps que d'autres joueurs.
D'accord. Et donc dans ce genre de jeu, on a des quêtes à remplir.
Alors typiquement oui, c'est le genre de fonctionnement qu'on retrouve, alors pas dans tous les MMO mais dans l'énorme majorité oui, et en l'occurrence The Old Republic fonctionne sur ce principe là.
Alors qu'est-ce qui fait de The Old Republic un MMO à part ?
Alors ce qui fait de ce jeu un MMO à part, c'est véritablement le côté narratif. C'est-à-dire que jusque-là dans l'énorme majorité des MMO, vous vous connectiez, vous faisiez vos quêtes, vous faisiez votre partie multijoueur, etc. Mais on ne pouvait pas dire que le côté scénaristique était extrêmement poussé en dehors des lieux, des grands événements, etc. Là, on a vraiment l'impression d'être en fait dans un jeu solo scénarisé. Donc c'est la grande spécificité. Autre grande spécificité qui en découle, c'est que le jeu est entièrement doublé. Et ça, c'est très très agréable parce que, considérant la quantité astronomique de lignes de dialogue que peut avoir un MMO, jusque-là, la plupart du temps, les concurrents se contentaient d'écrits.
C'est le premier MMORPG qui est entièrement doublé, d'ailleurs, je crois.
Oui, oui, c'est ça. Et il est rentré au livre des records pour être le jeu vidéo ayant le plus de lignes de dialogue enregistrées.
Autre spécificité des MMORPG, dans The Republic, on a la possibilité d'avoir des compagnons. Qu'est-ce que c'est qu'un compagnon ?
Alors, effectivement, c'est une des particularités du jeu, puisque en plus de votre personnage principal, vous allez pouvoir avoir un compagnon géré par l'ordinateur qui vous suit partout et qui va vous assister. Donc, dans le cours du jeu, vous allez en rencontrer plusieurs, mais on n'en a toujours qu'un avec nous, que l'on peut choisir. Quant aux autres, on va pouvoir les affecter à des missions particulières et c'est également une des spécificités du jeu puisque les métiers que le personnage peut sélectionner sont réalisés non plus par le personnage principal mais par ses coéquipiers.
Et oui, donc en fait ça ressemble un peu aux autres joueurs qu'on avait dans les RPG, notamment KOTOR.
Ben voilà, ça ressemble un peu à KOTOR, sauf qu'en fait, au lieu d'avoir deux coéquipiers, on n'en a plus qu'un avec nous. Mais effectivement, ça ressemble un petit peu au même principe, les autres restent dans le vaisseau et travaillent pour nous.
On a la possibilité d'avoir un vaisseau.
Alors, oui, tous les joueurs arrivent à avoir un vaisseau, qui sera leur maison, un petit peu à la manière KOTOR en fait, et qui leur permettra de se déplacer de planète en planète, où résidera leur compagnon, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit mini-jeu qui a été mis à disposition des joueurs et qui est la bataille spatiale. On n'est pas tout à fait libre des mouvements du vaisseau qui se déplace en fait dans un couloir, mais dans ce couloir vous pouvez le déplacer, etc. C'est un petit jeu de shooting et c'est sympa.
D'accord. Pour l'instant, ça va pas plus loin au niveau des phases spatiales.
Voilà, les phases spatiales, il y a quand on se déplace d'une planète à l'autre, on monte dans son vaisseau, on se met au poste de pilotage, on active l'hyperespace, qui est vachement sympa quand même, et il y a ces petites batailles-là. Il y aura peut-être ajout de nouveaux contenus, mais à l'avenir, et ça reste quand même de l'hypothèse.
D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cet aspect-là, enfin sur le The Old Republic par rapport aux autres MMO ?
Alors, bah, pour avoir joué à d'autres MMO, dont le principal concurrent, je trouve que c'est un jeu qui reprend les mécanismes solides du genre, et mais arrive à amener des améliorations bienvenues, notamment bah, les partenaires qui sont quand même vachement agréables. C'est un jeu qui est très fluide et qui est vraiment arrivé à garder les bases solides du genre et ajouter des petites choses en plus. Voilà, c'est un jeu qui, pour en tout cas un lancement, est extrêmement riche, fonctionne bien, etc. Donc ça promet du bon pour l'avenir.
Et d'ailleurs, niveau graphisme, quand on parle du principal concurrent, WoW, on voit que ça commence à dater, que le niveau graphisme, c'est pas encore ça.
Ah oui,
Mais
bah.
The Old Republic, qu'est-ce que ça donne niveau graphique?
Alors pour moi en tout cas c'est très beau, surtout pour un MMO. Parce que alors pourquoi pour un MMO? Parce que comme c'est prévu pour tourner sur un nombre extrêmement grand de machines, et également pour pouvoir gérer du multijoueur qui est parfois assez lourd, les MMO ont souvent tendance à essayer de niveler par le bas. Or là, on a vraiment au niveau graphique quelque chose de très joli. Qui va être relativement lourd quand même pour des ordis qui sont pas de dernière génération, mais qui vraiment graphiquement est très joli. Donc moi j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, notamment quand on va sur des planètes comme Hoth, Tatooine ou Coruscant, on a vraiment l'impression d'y être, comme dans les films.
Ok, on va passer à la suite avec les différentes classes qui sont disponibles dans le jeu. Comment ça se passe quand tu crées un personnage?
Alors d'abord, on a le choix entre deux factions, à savoir l'Empire et la République. Ensuite, on va pouvoir choisir la classe. Alors il y a quatre classes qui se retrouvent en fait dans les deux camps. Il y a le guerrier Sith qui est l'image du chevalier Jedi. Il y a l'inquisiteur Sith qui est l'image du Jedi consulaire. Il y a l'agent impérial qui est l'image du contrebandier. Et enfin, le chasseur de primes, qui est la classe miroir du soldat. Donc, à partir de. Donc, là, c'est quatre classes, donc quatre types de gameplay bien définis. Et ensuite, vous pouvez choisir la race de votre personnage et tout un tas d'options qui ne sont que purement cosmétiques. Après, au cours du jeu, chaque classe va pouvoir choisir entre deux sous-classes qui vont être totalement différenciés. Donc en fait, on peut dire qu'il y a 8 classes par faction.
D'accord. Alors tout de suite, je te propose d'écouter deux premiers témoignages à propos du gameplay de deux classes par Qui-Gon et Kel.
Je suis Qui-Gon Jinn, enfin membre du forum de Star Wars Universe. J'ai fait un personnage impérial, Ataynis. Alors j'ai choisi un Sith Inquisiteur, spécialisation assassin, donc double sabre laser. Avec ma classe, en fait, je peux soit infliger des dégâts aux adversaires ou alors tanker, c'est-à-dire résister aux dégâts. Donc moi j'ai choisi tank, en fait j'attaque les ennemis pour prendre les dégâts pendant que les autres leur infligent de gros dégâts.
Bonjour, Kel Tyner, je suis agent secret sur le jeu Star Wars The Old Republic. Au niveau gameplay, c'est une classe que je trouve super intéressante à jouer. C'est pas un Jedi du tout, pas un Sith, rien à voir de tout ça. Un pistolet et un couteau, et vas-y que je vais te défoncer de l'ennemi en fonçant dans le tas. Bon, en fait, c'est pas trop mon cas parce que je m'occupe surtout de soigner les autres joueurs qui, eux, foncent dans le tas. J'ai un rôle primordial, mais en même temps assez caché.
Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment que même si on prend quelqu'un qui, à la base, a une classe qui devrait le pousser, par exemple, à tirer sur des gens, finalement, il s'oriente plutôt vers le soin. Donc ça reprend un peu ce que tu disais, il y a énormément de choix possibles dans ce jeu.
Alors voilà, il faut savoir que c'est un type de jeu, un peu comme WoW pour ceux qui s'en sont familiers, où il y a trois rôles en fait. Il y a trois rôles principaux. Le tank, c'est-à-dire celui qui dans un groupe va attirer les coups ou les tirs des ennemis sur lui. Il y a les DPS, c'est-à-dire les classes qui sont vouées à faire énormément de dégâts. Et il y a les heals, c'est-à-dire ceux qui vont soigner principalement le tank. Donc en fait, bon, réparti sur ces trois grandes spécialités, effectivement, il y a beaucoup de choix. Toutes les classes pratiquement ont accès à ces trois rôles selon leur spécialisation et selon leur arbre de talent.
D'accord. Et toi, par exemple, qu'est-ce que tu joues?
Alors moi, par exemple, je joue un inquisiteur Sith. Donc arrivé au niveau 10, on nous propose de choisir entre l'assassin, donc type Dark Maul, et le sorcier, type Palpatine. Moi j'ai choisi un sorcier. Et après, parmi les arbres de talent, on a encore 3 choix. Et moi, parmi ces 3 choix, j'ai choisi le soigneur.
Et on sent vraiment bien la différence entre deux personnages qui auront évolué juste à un embranchement de l'arbre.
Oui. Alors par exemple, typiquement, moi, en étant sorcier soigneur, je vais sentir énormément de différence avec un sorcier spécialisé éclair, donc dégâts, qui va faire 10 fois plus de dégâts que moi, mais qui ne va pas pouvoir se soigner. Donc qui va mieux peut-être se débrouiller tout seul, mais en groupe va avoir besoin d'un soigneur. Donc c'est un peu complémentaire, c'est un peu le pierre-feuille-ciseau.
D'accord. Autre aspect très important des classes, t'en parlais déjà tout à l'heure un peu, c'est par rapport à l'histoire. Chaque classe a vraiment une histoire à elle.
Alors c'est vraiment ce qui fait la particularité du titre, c'est-à-dire que il y a 8 histoires en tout dans le jeu. Donc un pour le guerrier Sith, un pour le chevalier Jedi, et ainsi de suite. Donc une histoire pour chacune des 8 classes. Qui est la même cependant pour les différentes spécialités, mais qui est toujours de très très bonne qualité. Moi j'ai joué 3 classes, dont une seule jusqu'au niveau maximum, mais de ce que j'ai pu voir, toutes les histoires sont vraiment de très très bonne qualité.
Si tu veux, on va écouter comment Kel et Qui-Gon voient l'histoire de leur classe.
Donc en fait, avec l'Inquisiteur, on débute en fait en tant que esclave sur Corriban, et donc au fur et à mesure des quêtes, on va devenir un Sith important, à passer d'apprenti à seigneur, puis de seigneur à dark, etc. etc. Le scénario en lui-même est assez intéressant, il y a plusieurs références à l'univers étendu, pour ceux qui connaissent, donc moi je trouve la classe assez agréable. En plus, on a un gros rôle à jouer dans l'avenir de l'Empire en tant que Sith Inquisiteur.
Alors, l'agent secret, c'est une classe qui a la classe. Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. L'agent secret, donc, côté impérial, est un membre des services secrets qui officie sous les ordres d'Arc Jadus. Ce que j'aime beaucoup à propos de l'agent secret, c'est le scénario qui est vachement poussé. On voit que ça a été fouillé, recherché, il y a pas mal de rebondissements. C'est vraiment le scénario à lui tout seul, vaut le détour.
En plus du fait que chacun a vraiment son scénario, d'après ce qu'ils disent, oui, on a l'impression de vraiment faire partie d'un univers très, très dense et très complexe.
Oui. Il y a vraiment des événements épiques qui se déroulent au cours des histoires de classe et qui peuvent avoir des retentissements à l'échelle galactique. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très Star Wars. D'accord. Moi, j'ai vraiment retrouvé cet univers-là, cette ambiance. Donc c'est vachement théâtral au niveau de la conception. C'est divisé en actes, donc il y a 3 actes à notre histoire. Bien souvent, la fin du premier acte va lancer une histoire plus longue qui se déroulera jusqu'à la fin du jeu et où là on aura vraiment le final en apothéose.
D'accord. Et le final en lui-même constitue, enfin c'est vraiment une fin ou ça reste ouvert pour qu'on puisse continuer à jouer après?
Alors c'est effectivement une fin ouverte. On se doute qu'à l'avenir, il y aura certainement une guerre ouverte entre les deux factions et donc de nouveaux rebondissements à notre histoire. Mais ce sont déjà des fins en soi.
D'accord. Et donc ça, c'est l'histoire principale. À côté de ça, il y a aussi pas mal de petites choses à faire de part et d'autre.
Oui, une des particularités du jeu qui découle du narratif, c'est qu'il y a 2 types de quêtes. C'est-à-dire qu'il y a des quêtes de classe qui vont nous faire avancer dans notre scénario. Il y a des quêtes basiques, planétaires, et auxquelles toutes les classes ont accès. Donc, effectivement, chaque planète a, en plus du fil rouge de notre histoire personnelle, un déroulement propre, avec à chaque fois des choses à découvrir. Donc vous pouvez, si vous voulez, si une planète vous plaît, vous attarder et finir l'histoire d'une planète, ou au contraire, si la planète ne vous plaît pas, uniquement y faire votre histoire de classe et passer à la suivante.
Et au niveau de ces histoires sur la planète, c'est là aussi on a énormément de diversité, je suppose.
Oui, alors il y a des fils rouges planétaires qui sont plus ou moins intéressants. Il y en a des très très intéressants. Il y en a, il est vrai qu'ils le sont un peu moins, mais ça reste vachement diversifié. Ce qui est vraiment pas mal, c'est que le narratif nous donne l'impression que ce qu'on fait a de l'importance. Donc contrairement à un MMO classique où on ne prend même pas la peine de lire l'énoncé et où on clique sur accepter la quête et on se rend directement au lieu pour ramasser X objets ou tuer Y monstres, vraiment le fait que ça soit sous forme de cinématique, etc., c'est vachement vivant puisqu'on peut répondre à chaque ligne de dialogue avec trois choix. Ça nous donne vraiment l'impression... On est vraiment dans le bain, on a vraiment l'impression que ce qu'on fait est intéressant, donc c'est vachement bien à ce niveau-là, quoi.
D'accord. Avant de passer à la suite, je voudrais qu'on écoute l'expérience de jeu de Naruto, qui reprend aussi un petit peu des choses d'importance galactique.
Dans The Old Republic, je suis un contrebandier du nom de Nido. C'est une classe qui me va à ravi. Pour l'instant, je suis level 50, je touche à la fin au niveau du scénario. Il faut savoir que quand on joue contrebandier, si on fait un peu de RP, c'est du pur bonheur, donc des choix de conversation beaucoup plus libres que les autres. On a beaucoup plus d'amplitude de mouvement, on a des compagnons de tous bords, on a même des compagnons impériaux. En termes de classe, j'ai choisi la spécialité franc-tireur, c'est-à-dire gros bourrin à distance, contrairement au Malfroy qui est plus corps à corps. En termes de scénario, je l'ai vraiment préféré aux autres classes, parce que c'était beaucoup plus dynamique, pas mal de retournements de situation. Avec le contrebandier, on n'arrive plus sur la planète, on doit se plier aux règles locales, donc si on tombe sur la République, on doit se plier à leurs règles. C'est une autre vision de la chose. Quand on joue un Jedi, on va plutôt être du genre à arriver, vouloir forcément aider la République, on n'aura pas trop le choix dans les dialogues. Là, par exemple, dernièrement, j'ai choisi de libérer une entité qui risque de détruire la galaxie d'ici quelques décennies. Disons qu'en échange, elle m'a promis des technologies Rakata, ça devrait parler aux fans de KOTOR. Et bon, en bon contrebandier que je suis, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai décidé de mener la galaxie à sa perte.
On retrouve dans ce témoignage tout ce qu'on disait avant, un scénario très très important, la possibilité de faire beaucoup de choses. Mais il y a aussi un truc assez intéressant à la fin, c'est qu'il est contrebandier, il est du côté de la République, mais il peut quand même faire le choix de libérer une puissance maléfique sur la galaxie.
Alors oui, parce que un petit peu à la manière de fable, tous les personnages ont des points lumineux ou obscurs, et vous pouvez tout à fait jouer un personnage d'alignement obscur ou neutre en étant de la République, et vous pouvez au contraire jouer un personnage bénéfique en étant de l'Empire. Alors typiquement, le genre de classe qui se prête bien à ça, c'est agent côté impérial, parce que si vous êtes bénéfique, entre guillemets, c'est que vous êtes un bon nationaliste impérialiste, mais droit dans ses baskets. Et par exemple, vous êtes contrebandier, vous pouvez tout à fait vendre votre âme au plus offrant, même si vous faites partie de la République.
Donc en fait, même si au début, la création du personnage, on choisit un camp, c'est pas forcément définitif. On peut vraiment avoir une expérience qui va pas vraiment dépendre de notre camp.
Voilà, le choix de l'alignement est définitif pour la faction, donc ça veut dire que si on choisit République, on ne jouera jamais plus qu'avec des joueurs de République. Par contre, les choix de conversation obscurs ou lumineux permettent au contraire une liberté d'interprétation dans le roleplay du personnage, donc ça c'est assez appréciable, et c'est pas vraiment courant dans les MMO, même si en termes de jeu ça n'apporte pas grand chose, ça apporte énormément par contre en termes de plaisir, etc.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que plus tard, dans d'autres contenus, on puisse carrément changer de camp, à ton avis ?
Non, je pense que ça sera pas le cas, puisque forcément un Jedi aura tendance à rester du côté républicain. Je pense que les développeurs vont vouloir garder une certaine rigueur à ce niveau-là. D'accord. Par contre, ils vont inciter les gens à faire un nouveau personnage de l'autre camp.
Ça s'appelle le reroll, c'est ça ?
Oui, ça s'appelle le reroll.
Quand t'achètes le jeu, tu peux créer des personnages d'autres camps.
Oui, on peut créer à l'infini de nouveaux personnages, puisque l'abonnement est uniquement mensuel, donc à partir du moment où on a pris un mois, on peut faire ce qu'on veut pendant un mois.
D'accord. Donc du coup, ça permet aussi de tester les scénarios des autres personnages.
Oui. C'est le but en fait, c'est véritablement le but de ce qu'ils ont fait, c'est rajouter de la durée de vie au titre en laissant la possibilité et en incitant surtout les gens à reroll. D'ailleurs, la dernière mise à jour qui s'appelle Héritage incite au reroll, puisque lorsque vous avez un personnage au niveau maximum, vous pouvez faire quelqu'un de sa famille, son fils, ou etc., et recommencer à zéro avec des bonus.
D'accord. Et donc on détaillera un petit peu plus tard les contenus des différents patchs. Mais oui, donc on pourrait créer une famille vraiment entre ces personnages, et donc créer une sorte de background à son propre personnage, quelque chose de solide, en plus de l'histoire du jeu.
Oui, alors l'histoire du jeu fournit quand même, on va dire, l'immense majorité de l'histoire, mais on peut leur inventer un passé commun, des filiations, etc. C'est vraiment le but de la nouvelle mise à jour, avec un nom de famille, etc., un petit peu à l'image de la famille Skywalker.
D'accord. Maintenant, on va passer à la partie suivante. Quand on joue à The Old Republic, on peut jouer tout seul. Il y a des quêtes qui sont faites tout seul, mais on peut aussi jouer à plusieurs. Il y a des zones qui sont faites exprès pour ça, c'est ça ?
Alors, c'est-à-dire que le jeu étant un MMORPG, par essence, il est fait pour être joué à plusieurs. Donc, on peut bien sûr découvrir pratiquement 80% du contenu du jeu tout seul, mais il y a des zones réservées aux multijoueurs. Alors typiquement, lorsque vous avancez dans votre histoire de classe, vous allez avoir des quêtes dites héroïques pour lesquelles vous devrez être plusieurs. Donc ce sont des gros défis qui rapportent de plus grosses récompenses et qui demandent de mettre ses efforts en commun avec d'autres joueurs. Donc ça va être une bonne introduction aux multijoueurs pour les gens qui n'y sont pas habitués. Et après, il y a ce qu'ils appellent les zones litigieuses, et qui correspondent en fait aux instances ou aux donjons dans les autres jeux vidéo, et qui demandent d'être en groupe de 4. Alors là, vraiment avec un soigneur, un tank et deux DPS, et donc, et a fortiori, à la fin du jeu, il y a des instances, des zones litigieuses de plus en plus grosses, avec finalement les opérations qui sont des grosses zones litigieuses et qui se jouent à 8.
Une zone litigieuse, comment ça se passe ? Enfin, il y a un petit scénario, il y a un objectif, comment ça se passe ?
Il y a un objectif, typiquement, on vous envoie en mission commando pour aller faire telle ou telle chose, tuer tel ennemi ou désamorcer telle bombe. Et ça se construit sous le schéma narratif classique d'un donjon avec des sous-boss et un boss final. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, c'est quand même très narratif.
Question naïve, comment est-ce que tu fais pour trouver d'autres compagnons pour partir sur ce genre de zone ?
Alors, deux solutions. Soit on fait partie d'une guilde, donc on a des amis connectés à qui on peut demander directement, soit on peut s'adresser sur le canal général, on demande s'il y a des gens qui sont en partance pour telle ou telle aventure, et des groupes se forment comme ça. Au fur et à mesure du jeu, on commence à connaître des joueurs qu'on ajoute dans ses listes d'amis, qu'on recontacte, ainsi de suite, donc c'est vraiment social.
D'accord. Et donc, au point de vue social, justement, que sur Star Wars Universe, on a deux guildes, vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Alors oui, au niveau de Star Wars Universe, il y a du côté Empire les Wampa et du côté République les Wookiees.
Il y a combien de personnes dans les guildes de Star Wars Universe actuellement ?
Alors il y en a plus de 50 de chaque côté, il me semble.
D'accord.
Donc c'est vraiment des guildes d'une bonne taille.
Ok.
Donc les guildes sont des conglomérats de joueurs qui mettent leurs efforts en commun pour aller plus loin dans le jeu que ce qu'ils n'auraient pu faire de façon individuelle. Donc ça passe bon bien sûr par la connaissance du jeu. Donc si vous avez une question, il y a des stratégies selon les boss, etc. Donc il y a beaucoup d'entraide de ce type. Il y a des banques de guildes, donc ça permet de stocker en commun des matières premières, etc., des plans ou des matériaux rares que vous pouvez échanger avec d'autres joueurs de la guilde. Ça permet aussi et surtout de se faire des bons potes avec qui jouer régulièrement.
D'accord. Je vous propose d'écouter un petit témoignage de Naruto.
Je rejoins la section Wookiee de Star Wars Universe. C'est une guilde très sympathique, il y a une très bonne ambiance. On aime bien un peu se charrier les uns les autres. Ou autrement finir sur le bar de la flotte totalement nu en train de danser et de chanter YMCA, mais bon, ça c'est une autre histoire.
Donc oui, en dehors des zones litigieuses, on peut quand même pas mal s'amuser avec d'autres joueurs.
Oui, alors c'est le but premier de la guilde avant de faire des instances à la chaîne. C'est surtout une bonne bande de potes et bon, c'est vrai que à ce niveau-là, les guildes Star Wars Universe ont une très bonne ambiance. Il nous est arrivé plusieurs fois de faire des rencontres PVP. Il y a des zones
PVP,
open PVP. C'est-à-dire... Alors player versus player, c'est-à-dire on s'affrontait entre Wookiee ou Wampa. Sur le sable de Tatooine, c'était assez marrant, ce genre de choses, de festivités. Ah, ça dépend des fois. Principalement, c'est les Wampas parce qu'on est les meilleurs, mais...
En toute modestie, bien sûr.
Oui.
Donc tu es côté Wampa.
Oui.
Est-ce qu'il y a une base pour la guilde? Est-ce que physiquement, il y a une, je sais pas, une maison ou un appartement sur une planète où il y a écrit « ça, c'est la guilde Wampa Star Wars Universe »
Alors, effectivement, pas encore. C'est vrai que lorsque le jeu a été implémenté, les guildes se résumaient à une espèce de liste avec laquelle on pouvait discuter. Mais au fur et à mesure du temps, le contenu est enrichi. Donc il y a ajout de banques de guildes, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et à l'avenir, seront ajoutés des croiseurs de guildes. Donc les joueurs pourront mettre en commun leurs moyens pour acheter un vaisseau à la mesure de leur guilde. Donc les plus petites guildes auront un petit croiseur, tandis que les plus grosses pourront se payer le luxe de quelque chose de plus fastueux.
D'accord. Donc maintenant on va passer à la fin, quasiment. Qu'est-ce qui arrive dans le futur là?
Avec le patch 1.2 qui sort, il y a l'ajout, donc le gros morceau dont on a parlé, le côté héritage. Donc la possibilité de lier entre vos personnages, de débloquer de nouveaux bonus. Donc plus vous jouez, plus vous avez de personnages, plus vous avez des bonus. Soit de nouvelles capacités, soit des choses un petit peu plus fun, des objets sociaux, etc. Ils ont ajouté pas mal de choses rigolotes, des montures, c'est-à-dire des speeders, des petits compagnons qui vous suivent, alors des compagnons qui n'attaquent pas, mais des mini tauntaun, etc. Pas mal de contenu comme ça pour l'instant qui est ajouté. À chaque mise à jour, ils ajoutent aussi des instances. Des instances, alors notamment les deux dernières qui sont sorties étaient sur une peste ragoule, donc c'était vachement bien scénarisé.
La peste ragoule qui rappelle les événements des comics KOTOR.
Oui, voilà. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont venir, principalement techniques, mais à chaque mise à jour, ils vont nous rajouter quand même du narratif avec principalement les instances, de nouvelles zones de quête, etc. Là, ils ont ajouté des nouvelles zones de quête sur Corellia. Donc le jeu est en perpétuel développement.
D'accord. D'ailleurs, ces mises à jour, il y en a tous les combien à peu près?
Alors principalement, c'est tous les mois. Peut-être qu'après, ils prendront plus un rythme tous les deux mois. Mais c'est globalement à cette cadence-là. Donc toutes les semaines, il y a une petite maintenance qui est principalement faite pour corriger les bugs. Et une fois par mois, il y a de l'ajout de contenu.
D'accord. Enfin, la plupart des MMO fonctionnent avec des extensions qui sortent de temps en temps. Est-ce qu'il y en a déjà une qui est prévue pour The Old Republic ou c'est trop tôt pour l'instant?
Rien d'officiel, c'est beaucoup trop tôt, mais à en juger par le succès du titre, il y a fort à parier que oui, il va y avoir des extensions. Là, la date la plus probable, c'est un an après la sortie. On verra rien avant ça, mais il est quasiment sûr qu'il y en aura. Mais rien d'annoncé officiellement.
D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le jeu, sur le MMO en général?
Que le jeu, pour un jeu qui vient de sortir, parce que le jeu est vraiment récent, il est très prometteur. C'est-à-dire que la majorité des titres, lorsqu'ils sortent, sont moins aboutis, tournent beaucoup moins bien. Et là, vraiment, c'est des bases saines pour développer quelque chose qui peut devenir, et qui j'espère va devenir au fil des années, vraiment incontournable.
Donc on pourrait détrôner World of Warcraft, c'est pas envisageable.
En nombre de joueurs, je ne pense pas, parce que WoW a quand même été une anomalie statistique. Par contre, en durée de vie, moi je pense que c'est tout à fait envisageable, le succès qu'a rencontré le titre.
Ok. Bon, eh bien, je pense qu'il est temps de conclure cette émission. Merci à toi, et merci à Qui-Gon Jinn, Kyle Tenner et Naruto pour leur participation aux petites interviews.
Ben, merci à tous ceux qui nous écouteront aussi.
À très bientôt pour une prochaine émission du Star Wars Universe Show.
Don't fail me again.
Petite anecdote rigolote, enfin rigolote, ça dépend pour qui. Quand on joue au jeu en ligne, faut faire un peu attention à qui on parle et éviter de croire que toutes les filles qu'on croise dans le jeu sont vraiment des filles. Je me suis fait avoir avec un gars de la guilde que j'ai pris pour une fille. Là, je suis parti en mode drague dans mon RP d'agent secret et je suis passé pour un blaireau devant toute la guilde.